L'homme dans la nuit aux éditions Ronce, c'est le tout premier roman d'Alexis Liéna. Aujourd'hui sur Radio Passivière, nous allons parler littérature et plus précisément littérature locale. Alexis, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et auditrices ?
Eh bien, j'ai 37 ans, j'ai grandi essentiellement en Corrèze, je suis né en banlieue parisienne, mais je n'y ai vécu que 10 ans. Et voilà, j'écris depuis à peu près 15 ans, un peu plus.
Et donc vous avez publié, alors ce n'est pas le premier livre que vous avez écrit si je comprends bien, mais du moins le premier publié, L'homme dans la nuit aux éditions Ronce. Est-ce qu'avant de nous parler de ce roman, vous pouvez nous présenter les éditions Ronce ?
Oui, elles sont tenues par Quentin Ganteil qui vit à Poitiers, qui s'est lancé en 2019 je crois, enfin son premier titre, le premier titre qu'il a publié était en 2019. Et bon, il s'attaque à des littératures marginales, donc il fait un choix assez difficile.
Qu'est-ce qu'on entend par marginal ?
Eh bien, son premier titre, je crois que c'est Sergueï Netchaïev, nihiliste russe, qu'on a pu connaître par le roman de Dostoïevski, Le Possédé. Donc bon, il n'est pas forcément dans la ligne idéologique de cet homme, mais il fait le choix de le publier. Ensuite, il a publié un auteur qui s'appelle Denis Belloc, qui est, voilà, comment dire, qui s'est attelé par le verbe à traiter de la marginalité la plus sombre. Donc voilà, c'est pas forcément des livres très joyeux à lire sur la plage, mais qui témoignent de notre société. Voilà. Et puis mon titre qui est donc L'homme dans la nuit, pas forcément un livre très, très joyeux.
J'allais vous poser la question, quelle est cette marginalité chez vous dans L'homme dans la nuit ?
Elle concerne sans doute les forêts, qui sont probablement l'ultime refuge à la sauvagerie progressiste actuelle, qui sont elles-mêmes en péril. Hein. Oui, il s'agissait initialement d'une sorte de dystopie qui était née d'un... j'avais écrit une première version en 2013, hein, j'ai mis 10 ans à écrire ce livre, après moult versions, il a cette forme maintenant, mais il avait pris d'autres formes avant. J'avais fait un cauchemar en 2013, c'était en octobre je crois, j'avais vu un homme et un chien parcourir des bois. Je comprenais que cet homme était un fugitif, que cet homme était malade. Et qu'il cherchait à trouver un refuge au fond des bois. Et après, j'ai dû détricoter toute cette histoire pour essayer d'élucider la question.
C'est parti d'un cauchemar. C'est intéressant. Oui. Et est-ce qu'il y a des éléments autobiographiques dans ce livre ?
Quelques-uns.
Quelques-uns ?
Oui, évidemment.
Est-ce que le lecteur peut les repérer, selon vous ?
Je ne pense pas. Le personnage a quand même une cohérence. J'ai essayé de m'oublier tout de même en écrivant le livre, mais il y a une cohérence. C'est un homme qui ne croit pas ni au salut ni à quoi que ce soit. Et comment dirais-je ? Néanmoins, tout est fait pour le sauver. Tout est là pour le sauver.
Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette intrigue ? Est-ce que c'est une intrigue déjà ? Est-ce que j'utilise le bon mot ?
Oui. Bon, c'est un roman noir. Il y a évidemment le fil rouge. Je crois que c'est Joseph Conrad qui en avait un petit peu marre qu'on mette l'accent dans ses livres sur les intrigues et qu'on, au détriment du fond.
De l'intériorité des personnages aussi ?
De l'intériorité.
Ça prend une place importante dans votre livre, l'intériorité de cet homme ?
Oui, ça s'incarne sur la page, en fait.
J'imagine que c'est le narrateur ?
Non.
Non ? Ce n'est pas le narrateur ?
La troisième personne.
D'accord.
C'est une sorte de théâtre de mime. L'homme ne parle quasiment pas. En revanche, ses pensées s'inscrivent sur la page comme des flux de conscience. Ce que faisait Faulkner, notamment Faulkner, pas seulement lui, mais... Donc on peut un peu pénétrer, enfin en tout cas, sa pensée s'esquisse sur la page.
Vous avez cité plusieurs écrivains, dont Faulkner à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les écrivains qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie d'écrire à votre tour?
Ah oui, j'ai un très bon ami, justement, qui est un ami de Quentin Granteil. Il s'appelle Julien Ladegaillery, qui est poète, éditeur et libraire à Limoges, qui me parlait de « frère de situation ». Pour lui, c'était Pavès. Pour moi, c'était McCarthy et Hemingway, qui, au moment où j'écrivais ce livre, étaient près de moi. Oui.
Alors, vous parlez beaucoup de la forêt. Moi, je trouve ça très intéressant quand on parle de la forêt en Corrèze, puisque Radio Vassivière parle beaucoup de la forêt en Corrèze sur ses ondes. C'est pas difficile aujourd'hui de parler de la forêt et d'essayer de reproduire son authenticité, son énergie, si je puis dire, dans un livre, à l'heure du monde moderne, à l'heure des villes et de la post-révolution industrielle?
C'est une bonne question, mais oui, je pense pas que ce soit si difficile de la retranscrire, surtout si on a les armes de la poésie, qui sont des armes contre les armes.
C'est peut-être le meilleur moyen, finalement.
Oui. Le souci, à mon avis, vient peut-être de la perception des gens qui sont déshabitués du langage de la forêt, du langage de la nature. Qui sont déshabitués à lire les signes qui nous environnent à chaque instant. Donc c'est peut-être une porte où justement l'écriture, la poésie, la littérature peut être une possibilité, une porte pour des lecteurs de s'ouvrir différemment, d'avoir un regard différent sur la nature, sur la forêt, sur tous les habitants de la forêt également. Et oui.
Il y a un autre texte dans ce livre. Donc là, vous m'avez parlé de l'homme dans la nuit. Il y a également la caverne qui était censée être un épilogue et que vous avez finalement mis à la fin.
C'est le choix de l'éditeur.
C'est le choix de l'éditeur. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce texte? Est-ce qu'il est aussi important, aussi massif que le précédent texte?
Non, il est plus court. L'homme dans la nuit s'étale sur... j'avais voulu resserrer en 3 jours. 3 jours, 3 nuits. C'est un petit peu plus long, mais... La caverne, en revanche, c'est une soirée, enfin, l'après-midi et puis la soirée. Donc c'est très resserré.
Est-ce qu'il y a un lien avec la caverne de Platon?
Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est justement la petite phrase en préambule, je cite Platon dans la caverne, oui. Dans la République.
Alors de quoi ça parle?
De quoi ça parle? Difficile de résumer. Je peux dire qu'on suit deux hommes dans un des derniers bistrots, on va dire, un petit peu libre, d'un lieu que j'appelle les Hautes Terres, car il s'agissait d'une dystopie. Les Hautes Terres pourraient être le plateau de Mille Vaches, mais ça pourrait être le Larzac, hein, ça pourrait être...
Alors, est-ce que c'est inspiré de la réalité?
Hautes Terres
pour Haute Corrèze, par exemple?
Oui, bien sûr. Oui. C'est une géographie intime de la Corrèze que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Et on suit ces deux hommes et le tenancier se souvient d'une histoire que lui a racontée un vieil homme qui vivait dans le village, enfin un petit peu en marge du village, qui lui parlait d'un ermite qui avait vécu dans les bois et qui s'était départi peu à peu de toutes les peaux de la société moderne pour revenir à l'essentiel. Et qui s'est fait assassiner ensuite par les gendarmes. Et il s'avère que cette histoire est vraie. Je l'ai apprise et j'ai pu mener des recherches au cours de l'écriture du livre.
Et oui, je vois, là, je le dis pour nos auditeurs et auditrices, je vois que vous avez amené un article.
Oui.
Sur cet homme.
Plusieurs même.
Plusieurs.
Oui, il y a plusieurs articles qui ont été publiés après la mort de Michel Desbois, c'était son nom.
Donc j'imagine que vous avez, en plus d'un travail d'écrivain, vous avez réalisé un travail d'historien.
Un petit peu, oui. Mmh. C'est difficile de parler d'un homme qu'on n'a pas connu, à une époque à laquelle on n'a pas vécu. Néanmoins, j'ai essayé de tirer les grands traits.
C'est aux alentours de 1900.
Michel Desbois, il s'appelait Jean-Michel Vignal, il est né à Chantex en 1900, le 7 juin. Il a fait ses études en Corrèze, puis il est parti vers Paris, pas à Paris même, mais je crois à la banlieue ouest de Paris, où il a travaillé comme facteur pendant pas mal de temps. Puis il est revenu à la suite d'un pressentiment, je pense, c'est mon avis, mais surtout à la suite d'une maladie pulmonaire qui l'affectait gravement. Il a essayé de se soigner par les plantes, par lui-même. Donc il y avait déjà chez lui cette démarche vouloir rejeter, tous les ersatz de la médecine moderne. Il a réussi à guérir, et puis il s'est soigné également par l'effort physique et par le choix de vie qu'il avait fait, c'est-à-dire de vivre dans les bois et de recouvrer une autonomie de vie, de pensée. Je sais qu'il était entouré de livres, cet homme. Pourtant, il n'avait presque plus d'habits sur lui, mais il cultivait autre chose, voilà. Autre chose, un lien plus essentiel avec la terre, avec les bois, justement. Oui. Et vous voulez peut-être que je continue l'histoire?
Ah oui, je ne vous coupe pas, c'est fascinant. Allez-y.
Tragique. Eh bien, après la guerre, De Gaulle a réinitié le cadastre français. Enfin, donc beaucoup de géomètres ont parcouru la campagne française. Ils sont donc allés un moment à la rencontre de Michel Desbois, qui les a accueillis quand même, je pense, la première fois, et leur a dit qu'ils n'étaient pas obligés de venir sur son terrain. Il y avait une vingtaine d'arts, hein, donc c'était pas immense. Voilà, qu'ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Ces hommes sont revenus. Là, ils se sont fait vertement congédier. Et à la troisième reprise, c'était le 24 octobre 1951. Ils sont venus armés avec des munitions, notamment des fumigènes, etc., pour déloger cet homme.
Pourquoi est-ce qu'ils voulaient le déloger?
Je l'ignore.
Vous ne savez pas, non?
Je l'ignore. Ça, c'est un point sombre de l'histoire, mais voilà. Et Michel Desbois a voulu se défendre. Il possédait une arme, sachant que les agents des PTT, autrefois, possédaient un petit revolver poinçonné, puisque... convoyé parfois à des fonds, de la monnaie, etc. Donc il s'est défendu avec ça, avec ce qu'il avait. Il s'est caché dans ses cabanes. Il utilisait un bout de tôle qu'il avait pour couvrir une de ses cabanes. Et les gendarmes ont appelé des renforts, dont un tireur d'élite qui l'aurait touché à la main. La balle aurait fait exploser la crosse de l'arme de Michel Desbois et un éclat de bois aurait traversé son cœur. Ça, c'est la version officielle. C'est la version qu'on retrouve dans les journaux que j'ai pu trouver.
Vous la mettez en doute?
Oui.
Oui? Pourquoi?
Car je suis allé à la rencontre des gens de là-bas, qui l'ont connu. J'ai pu rencontrer des gens qui l'ont connu. C'était un homme absolument inoffensif. En outre, la version officielle dit que Michel se serait rendu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme ou une femme se rendre le cœur troué.
Oui.
Ça me paraît bizarre. Et un peu, voilà.
Et donc, vous vous êtes inspiré de ce fait divers. J'ai l'impression d'utiliser le mauvais mot. Ça paraît anecdotique de dire que c'est un fait divers, alors que c'est une petite histoire qui a fait la grande histoire. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça par écrit?
Par le truchement des mots. Par une sorte de mise en abîme également, puisque... l'homme qui raconte cette histoire a entendu cette histoire. Et je pars du principe que tant que les hommes... le mot « homme », c'est un terme générique pour moi. L'humanité garde la mémoire. Tout n'est pas perdu. Et quelque chose, évidemment, est altéré. Des faits précis sont altérés, mais quand même quelque chose subsiste. Et une leçon nous est donnée.
J'ai une dernière question après que vous nous ayez présenté donc ces deux textes, L'homme dans la nuit et La caverne aux éditions Ronce. Vers quoi tend votre écriture?
Oh, on pourrait la qualifier de... c'est le réalisme magique.
Le réalisme magique. Faut nous en dire un peu plus là-dessus.
Ah, j'essaie de... Bon, je ne pense pas qu'on puisse se mettre à la place d'un arbre. Nous n'avons pas leur sagesse. Je ne pense pas qu'on puisse se mettre à la place des oiseaux. Nous n'avons pas leur liberté. Mais on peut y tendre. On peut essayer de s'oublier, comme il faut le faire pour l'écriture, à mon avis, s'oublier. pour fusionner, en tout cas communiquer ou communier avec les éléments vivants qui nous entourent. C'est ce que j'essaie de faire ressortir dans mon écriture. Je pense qu'il n'y a qu'une seule et même histoire qui s'écrit, et qu'elle n'est pas seulement humaine. Elle appartient également à la nature. J'essaie de faire ressortir ces choses-là dans sur la page, quoi, dans le livre, en écrivant. C'est pas évident, mais voilà, c'est ma démarche. J'y tends, en tout cas.
Je pense que c'est plutôt mission réussie, ce n'est que mon avis.
J'espère.
Comment est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage ?
On peut le trouver dans des librairies indépendantes.
Vous pouvez nous en citer quelques-unes sur le territoire ?
À Tulle, oui, la librairie Préférence, la librairie Trarieux. Je crois que je vais peut-être dire des bêtises, hein, à la Souterraine, il me semble. À Limoges, évidemment, à Page et Plume. Après, je l'ignore. Après, ce sont des librairies indépendantes. Il faudrait demander à l'éditeur.
Peut-être sur le site internet des éditions Ronce.
Oui, il y a un site.
Est-ce que vous le connaissez ?
Pas très bien, je ne vais pas trop sur le net. Mais...
Alors on le mettra en légende, hein, de ce podcast pour la rediffusion sur notre site internet à nous. Et vous allez finir par nous annoncer votre prochaine venue en Haute-Corrèze, notamment du côté de Cléda, du côté de Pradines. Je vous laisse nous expliquer la raison de votre venue là-bas à l'église de Pradines. Qu'est-ce qui va se passer le 20 août prochain ?
En votre compagnie.
Oui, Radio Bassivière sera là, exactement.
Depuis quelques années, les pastorales de Cléda sont organisées donc à Pradines, à Cléda, par Yves Ragugno. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean Maison à mon retour en Corrèze en 2018, qui m'a lui aussi invité, enfin par l'intermédiaire de Yves Ragugno. Nous allons parler de poésie, tout simplement.
Voilà, c'est ça. Donc, un colloque de poésie en Corrèze. C'est à l'église de Pradines, le 20 août prochain. Ça durera toute la journée, toute une journée, pour parler de poésie dans une église, dans un super cadre. Quoi de mieux ?
Ça sera très bien, je pense. C'est le lieu approprié.
Merci, Alexis, de nous avoir présenté cet ouvrage. Écoutez, on vous dit peut-être à bientôt pour les prochains. Est-ce qu'il y en a en préparation ?
Accueilli. Oui, j'en ai pas mal en préparation, mais pour l'instant, je fais une pause.
Très bien. Oui.